le 6-9.
Listen anywhere.
Huawei Duba.
Wahda min Souria.
Tu vas aller en
sur France Inter.
Bah dites donc, Anthony Bélanger, vous nous parlez pas de Boris Johnson ce matin?
Ben non, parce que vous allez en manger toute la journée du Boris dit Bojo, dit la bombe blonde. Bref, plutôt que de vous rajouter une chronique au service de sa gracieuse majesté, j'ai décidé de vous parler d'un autre genre d'excentricité ce matin, la fusée lunaire indienne. Elle s'appelle Chandrayaan 2. Elle a décollé hier sous les yeux et bobies de millions d'Indiens qui ont suivi son panache blanc en streaming ou à la télévision. En septembre, il sera temps de regarder le petit rover à l'unir. Alors, je vais pas faire tout de suite le mauvais coucheur. Les Indiens sont si fiers de leur programme spatial, si fiers d'être la quatrième nation lunaire au monde, si fiers de compter par ce biais au rang des nations technologiques et scientifiques que c'est beau à voir.
En plus, le programme coûte pas cher.
C'est même l'argument clé. Il en coûte à la nation indienne 1,6 milliard d'euros annuels. C'est 12 fois moins que la NASA. Mieux avec Chandrayaan 2. Et pour 126 millions d'euros, mesdames, messieurs, vous avez une fusée, un module spatial. Et j'ajoute même un rover dernier cri. Direction assistée, boîte automatique, alors que pour 150 millions d'euros, on a tout juste une bête Ariane 5 et sans option encore. Alors pourquoi se priver? D'ailleurs, l'Inde veut désormais jouer dans la cour des grandes puissances et ce programme spatial, un peu vain, il faut bien le dire, en est le symbole. Ce n'est pas le seul. Le Premier ministre Narendra Modi, fraîchement, vous savez, triomphalement réélu, a fixé un autre objectif à son pays, atteindre 5000 milliards de dollars de PIB dès 2024, c'est-à-dire demain. L'Inde en est à peu près à la moitié et il lui faudra croître de 12% par an pour y parvenir.
Et cet objectif est réaliste?
Disons que c'est ambitieux, mais ça reste tout à fait envisageable. La croissance indienne tourne autour de 10% l'an depuis une bonne décennie. Ça signifie prendre un ou deux ans d'avance. Et ça signifie surtout doubler l'Allemagne et le Japon d'ici 4 ans. Voilà le vrai objectif. Rappelons tout de même que l'Inde sera devenue d'ici là le premier pays au monde par sa population. Une population autrement plus dynamique, hein, démographiquement s'entend bien sûr, que celle de la Chine, dont on dit souvent qu'elle sera vieille avant d'être riche. Ensuite, l'irruption de l'Inde au premier plan des économies mondiales est plus un retour à la normale, figurez-vous, qu'une surprise. En 2000 ans d'histoire, l'Inde n'a été absente du top 5 des nations développées et riches que 150 petites années les dernières. Un chiffre, en 1750, un quart de la production industrielle mondiale était indienne.
Reste, Anthony Bélanger, que l'Inde a aussi de sérieux défis à relever.
Et c'est un peu là où je voulais en venir. Était-il vraiment indispensable de faire rouler un rover sur la Lune alors que, par exemple, le réseau ferré indien a besoin d'investissements massifs. Je vais vous donner un autre exemple des défis immenses et urgents qui attendent l'Inde. Je suis tombé hier sur un chiffre assez effrayant. Dans le district d'Uttarkashi, plus de 300 000 habitants dans le nord du pays, aucune petite fille n'est née depuis 3 mois dans aucun des 132 villages du district. Que des garçons. Cette info terrifiante est à l'image de l'Inde où la modernité rencontre l'arriération, où l'échographie donc, qui permet de savoir et donc de choisir le sexe de son enfant, même si c'est interdit en Inde, rencontre cette pesante tradition qui veut que les filles coûtent quand les garçons rapportent.